mais le genre douce. Il y a plein de têtes nouvelles. Enfin, en tout cas, que je ne remets pas. Donc bonjour à chacun et bienvenue encore ce matin. Alors ce matin, j'ai introduit, ou si je devais résumer, c'est marcher humblement avec son Dieu, se rapprocher de Dieu. Et qu'est-ce qui m'amène à cette thématique? Moi, j'aime dire, c'est mes lectures. Et aujourd'hui, ou plutôt ces temps-ci, je suis en train de passer les prophètes les uns après les autres. Donc, je vous ai fait part de Jérémie il y a quelque temps, avec les Jérémiades, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a eu Jonas, et puis Michée. Donc, ce matin, on va un peu s'attarder sur Michée. Alors l'effet marquant, c'est un petit peu tout ça, c'est un temps de guerre, d'injustice, de défiance, de mépris de Dieu. J'ai presque envie de dire, on pourrait presque parler de notre époque. Et malgré cela, ces prophètes reprennent, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et donc qui peut vraiment dire que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin ? Alors si, je peux le dire, mais vraiment le dire. Que faire pour bénéficier de ces bontés? Y a-t-il quelque chose à faire pour avoir cette espérance? Jacques, ce matin, nous a projeté beaucoup de versets. Alors, ils sont très explicites. On se confie en Dieu. Dieu va être avec nous. Mais entre la parole et on va dire la réalisation de la parole, pour moi, il y a un certain fossé. Pas tout le temps, mais souvent. Voilà donc ce que je rappelais un petit peu la semaine passée, dans les Jérémiades. Jérémiades, non, c'est pas comme ça. C'est dans Lamentations, chapitre 3, les versets 21-27. Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses tendresses. Elle se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Il est bon de se soumettre à une discipline dès sa jeunesse. Non, juste en rappel à ce que je disais la dernière fois, c'est que quand ces paroles ont été écrites, c'était en pleine déportation, en pleine guerre, etc. Donc, voici ma raison d'espérer, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et celui qui l'écrit est en déportation. Bref, ce que je retiens simplement, c'est au verset 27, Jérémie conseille de se soumettre à une discipline dès sa jeunesse, discipline à chercher Dieu, à compter sur le secours de Dieu, quoi qu'il arrive. Alors ça date un petit peu, hein, c'est 600 ans avant Jésus-Christ, 26, voire 27 siècles sont passés, depuis que ces paroles ont été écrites. Et pour beaucoup de nos contemporains, Dieu peut paraître bien loin de notre monde chaotique. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil, ça c'est quelqu'un d'autre qui le disait, rien de nouveau sous le soleil. Dieu semble loin des préoccupations des gens de notre époque, mais il semble aussi loin des préoccupations quand je lis l'histoire du peuple de Dieu. Alors il y a un message humoristique qui m'a été envoyé, je ne sais plus par qui, j'ai pas retrouvé, mais celui qui me l'a envoyé se reconnaîtra, avec une petite photo que je vous projetterai pas pour garder un petit peu de sérénité. C'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu et qui dit en quelque sorte, Dieu écoute-moi quand je te parle, et Dieu de répondre, écoute-moi également quand je t'envoie des messages. Alors ça c'est ce que j'avais retenu, puisque la vraie image c'est, mon Dieu quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et une petite voix en haut disait, eh bien moi aussi, figure-toi. Voilà, donc je préfère rester avec des paroles qu'avec les images. Pour ceux que ça intéresse, je la garde pour la fin. Voilà, donc en fait, c'est comment rétablir ce contact avec Dieu par rapport à ce monde d'injustice, par rapport à tout ce qui peut nous entourer. Alors dans l'Ancien Testament, les clés peut-être pour retrouver Dieu, c'était les sacrifices. On va amener un agneau, un bœuf, une colombe. Peut-être aller au temple pour voir le prêtre, le grand prêtre. Alors aujourd'hui, on ira peut-être voir le petit prêtre, le pasteur. Je ne sais pas si vous êtes venu avec des animaux pour les sacrifier, mais ça ne sert à rien. Par contre, vous êtes venu avec de l'argent, vous avez mis un peu d'argent dans une boîte. Désolé, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien pour être en communication avec Dieu. Ça ne vous permettra pas d'avoir un abonnement téléphonique avec lui. Voilà, donc ce matin, je voulais un petit peu vous parler un petit peu de cette clé qui permettrait de renouer ce dialogue avec Dieu. Alors, si tant est qu'on l'ait eu une fois, donc ça pourrait être nouer un dialogue avec Dieu, ou renouer avec un dialogue si des fois on était dans une phase un peu plus creuse, et puis continuer pour ceux avec qui ça va super bien. Voilà, donc Jérémie qui faisait partie des prophètes que j'ai lus. Donc, quoi qu'il arrive, c'était de faire confiance à Dieu. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ce que je retiens pour moi, c'est quand il n'y a plus personne, quand tout s'effondre, tout disparaît, ben vous êtes tout seul dans votre chambre, tout seul dans la rue, tout seul avec vous-même. Et je réalise effectivement ce que ça veut dire être face à Dieu et d'avoir les bontés de Dieu qui se renouvellent. Jonas, le plus ancien de ces trois prophètes, donc deux siècles avant Jérémie, lui, il a dû écouter par deux fois le message de Dieu pour qu'il le retransmette aux habitants de Ninive. Alors les habitants de Ninive, ce que je savais pas, peut-être vous saviez, Ninive c'était la Syrie, donc effectivement la Syrie à l'époque c'était pas forcément des super copains pour le peuple d'Israël. Toujours est-il, c'est que Jonas devait aller voir ces habitants-là, aller voir un peu l'ennemi, pour leur faire part un petit peu du message de Dieu. Et les habitants de Ninive, ils ont écouté le message, ils ont pris en considération le message, ils ont reconnu leur état de rébellion vis-à-vis de Dieu, et Dieu les a entendus. Il les a épargnés du mal qu'il avait projeté de faire. Voilà, et puis donc, Michée, un petit peu sur cette même thématique. Dieu qui parle, certains entendent, comme les habitants de Ninive, et d'autres se posent la question, je parle, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'écoute? Donc, qu'est-ce que dit Michée aux gens de son époque? Un petit peu dans cette optique de comment renouer ce dialogue avec Dieu. Et donc avant de voir cette proposition très concrète, c'est juste peut-être balayer un peu l'historique. Là, Michée, c'est assez court, ça fait 7 chapitres. Alors, je vais les prendre très très brièvement, simplement pour recadrer, pour arriver sur ce 6e chapitre. Mais en tout cas, au chapitre 1, c'est Michée qui interpelle ses contemporains à prendre conscience des accusations de Dieu contre eux, parce que eux se sont rebellés contre Dieu. Et visiblement, ils n'en avaient pas conscience. Michée, les premiers versets du chapitre 1. « Vous tous les peuples, écoutez, que la terre et ceux qui y vivent prêtent attention. Le Seigneur va venir vous accuser depuis sa demeure sainte. Oui, le Seigneur sort du lieu où il habite. Il descend, il marche sur les sommets de la terre. Sous ses pas, les montagnes s'affaissent et les vallées se disloquent comme la cire fond au feu. » Et comme l'eau dévale une pente. La révolte des descendants de Jacob, les infidélités du royaume d'Israël en sont la cause. Qui entraîne Israël dans la révolte? N'est-ce pas Samarie? Et qui entraîne Juda dans l'idolâtrie? N'est-ce pas Jérusalem? Donc effectivement, les premiers versets, c'est « Le Seigneur va venir vous accuser ». Et les problèmes, ils viennent pas de l'extérieur. La révolte, les infidélités, l'idolâtrie, ça venait de l'intérieur. Ça, c'est pour démarrer Michée. Et Michée, donc, continue avec les chapitres 2 et 3. Il rappelle les faits. La pratique de l'injustice. Et presque, j'ai envie de dire, il commence par les responsables, les prophètes, comme les chefs du peuple. Ben, ils sont particulièrement visés, puisqu'ils sont directement nommés. Et seul un petit nombre du peuple d'Israël, en tout cas de son auditoire, serait sauvé, serait repêché par Dieu. Mais la plupart des autres personnes sont mises en accusation. Et au milieu de tout ça, les versets 12 et 13 du chapitre 2, il y a une petite lueur d'espoir, en tout cas pour un petit nombre de l'auditoire. « Je vais vous rassembler tous », c'est les versets 12 et 13 du chapitre 2, « Je vais vous rassembler tous, descendants de Jacob. Je vais vous réunir, survivants d'Israël, dit le Seigneur. Je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos, comme un troupeau dans son pâturage. Vous formerez une foule animée. À votre tête marche celui qui ouvre le chemin. vous êtes libéré, vous forcez un passage et vous sortez. C'est le Seigneur votre roi qui passe devant vous et vous conduit. Alors même si c'est écrit, on va dire, 6 siècles ou 7 siècles avant Jésus-Christ, ça fait un petit peu un parallèle avec quelqu'un qui va nous regrouper, qui va nous rassembler. Et effectivement, donc, au chapitre 10, les versets 14 et 16 de l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, je dois aussi les conduire, elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Donc Michée qui accuse, ça va mal pour beaucoup de monde, mais en tout cas, quelqu'un va venir rassembler, il est dit ici, des survivants. Donc les chapitres 4 et 5 qui suivent, c'est l'espérance d'un monde meilleur pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et je retiendrai simplement donc le verset 1 du chapitre 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite ville de Juda, de toi sortira pour moi, c'est Dieu qui parle, il sortira pour moi, celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. » Alors à l'époque c'était certainement mystérieux, mais avec du recul, ben, on retrouve un peu, beaucoup, un lien avec Jésus, qui lui va naître 7 siècles plus tard à Bethléem, et qui se présentera aussi comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et donc pratiquement le mot pour mot, c'est dans Matthieu chapitre 2, les premiers versets. « Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. » Et c'est Hérode qui cherchait à savoir où allait naître le roi des Juifs. Et donc les mages à qui il s'adressait, s'ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple. » Donc là, ce que je voulais un petit peu faire sentir, ou que je résume comme ça, c'est que le process est en marche depuis un certain temps. C'est-à-dire que nous, on a 26, 27 siècles d'existence depuis ces textes. Donc effectivement, Michée accuse une partie du peuple, enfin Michée, par l'intermédiaire de Michée, Dieu accuse son peuple. Alors il l'accuse de quoi? C'est de plus ou moins de le mépriser, on va voir ça. Pourtant, il y aura une victoire pour ceux qui s'appuient sur Dieu, pour ceux qui le reconnaissent. Donc personne n'est épargné, ni prophète, ni chef, ni peuple. Tous sont mis en accusation. Et donc le chapitre 6 est sans appel, parce que des fois je trouve qu'il y a des versets qui sont un petit peu ambigus, mais là visiblement quand on regarde les premiers versets du chapitre 6, « Écoutez ce que déclare le Seigneur, il m'ordonne de défendre sa cause, d'aller l'exposer à voix haute devant les montagnes et les collines. Écoutez-vous, les montagnes et vous, les bases, inébranlables sur lesquelles la terre repose, le Seigneur accuse son peuple. Il demande des comptes aux Israélites. Mon peuple, leur dit-il, quel mage vous ai-je fait? En quoi vous ai-je fatigué? Répondez-moi. » Donc tout à l'heure, je parlais de la petite carte postale où c'est le terrien qui dit à Dieu, réponds-moi. Là, c'est Dieu qui envoie un message en disant, répondez-moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Bref. J'ai intitulé ça le dialogue un peu coupé. Donc cette question qui reste un peu d'actualité, ce que j'ai un petit peu mis en parallèle, c'est que ce peuple de Dieu, c'était pas n'importe qui. Ils avaient connaissance que Dieu existait, donc c'est surprenant de voir que le peuple, soi-disant qui connaît Dieu, a un dialogue coupé avec son Dieu. Ce qui m'a surpris aussi un petit peu, c'est la formule que Dieu accuse. Parce que bien souvent, si on pose la question autour de soi, Dieu est amour. On a encore rappelé plus d'une fois ce matin. Dieu est amour, Dieu pardonne. Certes, il est amour. Il a donné Jésus-Christ comme bon berger. À la fois, Michée, il faisait allusion. les évangélistes Matthieu et Jean en ont parlé. Donc effectivement, Dieu est amour, Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Et pourtant, Dieu accuse aussi pour dire, vous me méprisez un petit peu. Dieu est amour, il est lent à la colère, riche en bonté, on l'a rappelé ce matin. Par contre, il demande des comptes. Et ça, effectivement, on le voit des fois un peu moins. Des fois, je le vois un peu moins. Voilà, donc il y a des choix qui sont faits. On peut attraper la bonté de Dieu. Et je dirais pas qu'on peut attraper la colère de Dieu, mais en tout cas, on peut peut-être subir la colère de Dieu. Et là, ça me fait penser aux autres prophètes, là, notamment Jonas, qui avait annoncé aux habitants de Nénive que s'ils reconnaissaient pas Dieu, s'ils reconnaissaient pas leur faiblesse, toute la méchanceté qu'ils avaient, qu'ils allaient disparaître. Et là, je fais court, les habitants de Nénive, un sac de toile, la cendre, et puis on va jeûner. Donc je vous imagine tous aujourd'hui habillés non pas avec des vêtements, mais avec un sac de la cendre sur la tête. Ça marque, quoi. C'est pas juste, je vous demande pardon. Voilà. Et puis, Dieu les a épargnés de cette menace. Et puis, peu de temps avant, donc là, c'était pas un prophète, mais quelqu'un a annoncé à tout le monde qu'il allait y avoir un grand déluge, et puis ils ont construit un bateau. Et puis ce brave homme-là, il s'appelait Noé. Je pense pas qu'il ait pu construire le bateau tout seul, donc il y a des gens qui l'ont aidé. Donc il y a forcément des gens qui ont entendu son message. Pourtant, Noé était tout seul dans le bateau. Pas tout seul, avec une partie de sa famille, mais voilà. Juste à titre d'illustration, on peut entendre, on peut voir. Des gens écoutent. Je mettrai les habitants de Nénive. Les gens sont indifférents. Même donnent un coup de main à Noé, mais ils sont indifférents à Dieu. Et là, c'était de l'éluge. Et donc, on va dire la condamnation pour tous ceux qui n'étaient pas dans le bateau. Voilà, donc la question, entre guillemets, qui m'intéressait là pour ce matin, c'était comment est-ce que je peux me rapprocher de Dieu? Dieu disait, par l'intermédiaire de Michée, pourquoi m'avez-vous oublié? Pourquoi vous êtes rebellé contre moi? Moi, j'ai rajouté, est-ce qu'on a conscience de notre éloignement? Donc, est-ce que j'ai conscience de mon éloignement avec Dieu? Est-ce que mes contemporains ont conscience de leur éloignement avec Dieu? Et là, je vais reprendre les versets 6 et 8 de Michée par rapport aux clés que le peuple pouvait penser avoir. Qu'est-ce que je dois offrir quand je me mets à genoux devant le Seigneur, le Dieu très haut? Est-ce que je dois lui offrir des jeunes taureaux et les brûler entièrement en sacrifice? Est-ce que le Seigneur veut des milliers de béliers et des milliers de torrents d'huile? Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et mes infidélités? Et le verset 8, « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien, voici ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Dit autrement, effectivement, les sacrifices d'animaux, même à l'époque de Michée, c'était pas le plus important. Si je fais le parallèle maintenant, comme je disais tout à l'heure, les dons en argent que vous avez fait, que vous pourriez être amené à faire plus tard, ou le temps qu'on peut passer dans telle ou telle association ou telle œuvre, je dirais, n'y sont pas pour, n'apporte rien pour renouer ce dialogue. Dieu recherche un cœur simple, un cœur sincère, un cœur en toute transparence. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, je vais simplement m'attarder sur ce verset numéro 8 du chapitre 6 en différentes versions. Simplement pour voir un petit peu différents mots, différents vocabulaires qui sont utilisés. Le Seigneur demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu vives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Le Seigneur demande faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Le Seigneur réclame que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Le Seigneur demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. encore, l'Éternel demande que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et peut-être la version plus ancienne, celle de 1910. L'Éternel demande que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors ça fait beaucoup de versets 8, mais je tenais à le parcourir sous ces différentes versions qui pour moi font apparaître, ou en tout cas m'éclairent pour avoir un peu ces deux axes. Un, tourner vers les autres, respecter le droit des autres, agir avec bonté, faire ce qui est juste, être loyal, aimer la miséricorde. Alors j'ai beaucoup de mal avec ce mot miséricorde. Alors peut-être que je suis le seul, mais pour ceux qui seraient comme moi, ben j'ai cherché dans le dictionnaire. Miséricorde, c'est pardonner par pure bonté, venir en aide à celui qui est dans le besoin. J'avais pas imaginé tout ça. Enfin voilà, donc plutôt tourner vers les autres. Et une autre thématique, orientée vers notre Dieu. Le suivre, suivre humblement le chemin que Dieu nous indique, et vivre avec Dieu dans la simplicité. Alors pourquoi je reprends ça? C'est quand on voit les versets 9 à 16 qui illustrent ce que Dieu voulait dire à son peuple à l'époque de Michée. Les versets 9 à 16, toujours du chapitre 6. La voix du Seigneur s'adresse aux habitants de la ville et il sauvera ceux qui reconnaissent son autorité. Écoutez, membres de la tribu de Juda, vous tous qui êtes assemblés dans la ville, puis-je supporter que les méchants entassent dans leur maison des biens obtenus par la fraude et qu'ils se servent, ce qui est détestable, de mesures faussées? Puis-je tenir pour innocents ceux qui utilisent des balances faussées et qui mettent dans leurs sacs des poids truqués? Les riches de cette ville recourent à la violence. Les habitants mentent comme ils respirent pour tromper les autres. Eh bien, j'ai commencé à te porter des coups qui entraîneront ta ruine à cause de tes péchés. Toi, tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié. Chez toi, on criera famine. Ce que tu mettras de côté ne pourra pas être conservé, et si tu conserves quelque chose, je le ferai détruire par l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne récolteras pas. Tu presseras des olives, mais tu n'en utiliseras pas d'huile. Tu fouleras du raisin, mais tu ne boiras pas le vin. Vous suivez le mauvais exemple donné par le roi Omri et par son fils Akab, ainsi que par sa famille. Vous êtes fidèles à leurs habitudes. C'est pourquoi je provoquerai la ruine de votre ville. Je ferai de vous, ses habitants, un sujet de moquerie. Vous supporterez la honte qui atteint tout mon peuple. Alors, il n'y a vraiment que le verset 9 qui est un petit peu optimiste. La voix du Seigneur s'adresse aux habitants de la ville et il sauvera ceux qui reconnaissent son autorité. Mais tout le reste était adressé à des gens qui étaient censés suivre Dieu. J'ai mis sur mon texte le soi-disant peuple de Dieu, entre guillemets, parce qu'effectivement, quand on voit l'histoire du peuple de Dieu, j'ai presque envie de dire, quand on voit l'histoire de certaines personnes qui se disent marcher avec Dieu, et quand on voit tout ce qui se passe, quand on parle de fraude, quand on parle de balance truquée, quand on parle de mensonge, les conseils de Jérémie, les conseils de Michée, agir pour les autres avec droiture, c'est ne pas s'enrichir, entre guillemets, injustement. Vous avez le droit de vous enrichir pour faire des dons. Mais s'enrichir injustement pour faire des dons, c'est peut-être pas une bonne chose. Voilà. Donc s'enrichir injustement, derrière il y a l'escroquerie, les balances truquées. A priori, ça semblait assez fréquent à l'époque. Pour le peuple de Dieu, ça me surprend toujours. Abuser de la confiance d'une personne via la pratique du mensonge, ça me surprend un peu, mais est-ce que de temps en temps on glisse pas un petit peu sur des mensonges par omission pour obtenir des fois certaines faveurs ou autre chose? Mais en tout cas, abuser de la confiance par le mensonge n'est pas bon. User de la violence, c'est presque entre guillemets un petit peu courant, mais est-ce que de temps en temps on s'emporte pas un peu pour affirmer son autorité? Pratiquer la miséricorde, comme j'ai indiqué tout à l'heure, j'ai eu la surprise, parce que j'avais pas réalisé tout ce que ça engendrait. Donc pardonner par pure bonté. Alors déjà pardonner c'est pas évident, mais pardonner par pure bonté, ça c'est le Larousse qui disait ça. Voilà, donc derrière ça c'est pardonner effectivement ceux qui nous ont fait du mal, ne pas tenir rancune à ceux qui nous en veulent. Et puis effectivement, si on a des problèmes avec personne, on peut quand même pratiquer la miséricorde pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Semaine passée, on a eu des informations concernant de sel, donc ça peut être des personnes en difficulté loin de chez nous, mais ça peut être aussi des personnes en difficulté toutes près de chez nous, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Voilà, donc on peut aider son prochain aussi bien très loin que très près. On peut aussi avoir de l'attention pour notre prochain par rapport à la liberté, la nôtre. Je fais un peu ce que je veux, mais quand je commence à embêter mon voisin, peut-être que je n'ai plus trop d'attention pour mon voisin. Et puis, est-ce que je peux avoir de l'attention, tout simplement, en aidant quelqu'un par du temps, par de l'argent. Et puis, le verset 16, puisque là, c'est surtout pour autrui. Donc là, mon collègue humaniste, il me dirait, tu vois, on se rejoint. Finalement, moi aussi, j'aide mon voisin. Moi aussi, je fais don de ceci ou cela. Par contre, effectivement, après, c'est marqué de marcher humblement avec son Dieu. Donc, comment marcher avec son Dieu si son Dieu, on le reconnaît pas? C'est peut-être là où, avec mon collègue humaniste, la discussion, on va dire, je dirais pas s'échauffe, parce qu'on aime bien discuter ensemble. Mais c'est là que le point casse. Donc, marcher avec son Dieu, j'ai reformulé par reconnaître l'autorité de Dieu entre ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est en partie les versets qui ont été lus ce matin par Jacques. Reconnaître aussi notre orgueil à penser que nous faisons toujours le bien, qu'on va s'en sortir tout seul, qu'on n'a pas besoin ni des autres, mais surtout pas de Dieu. Reconnaître notre besoin d'être pardonné vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Alors le pardon, ça peut être par rapport à des actions extrêmement, on va dire, violente, super, mais il y a aussi des petites actions toute la vie qui nous bouffent la vie. On dit, j'aurais peut-être pas dû faire ceci, ou pas dû faire cela, pas dû faire ceci pour les autres, ou pas dû faire ceci pour moi. Enfin bref, moi j'ai beaucoup de questions comme ça qui me tournent dans la tête, donc en fait cette notion de pardon et de liberté d'esprit me conduit à dire effectivement qu'avec Dieu, on peut trouver la paix par rapport à toutes ces questions. Et puis effectivement, donc, par rapport à mon collègue humaniste, effectivement, c'est mettre sa confiance en Dieu en priorité, plutôt qu'à celle des hommes, marcher avec lui, et compléter entre mettre sa confiance par rapport à d'autres croyances, où là on pourrait mettre Dieu au second plan, c'est-à-dire oui, je crois Dieu, mais je vais aller voir tel ou tel institut plus ou moins, on va dire, normal, ou que je qualifierais de rebouteux, de chasseurs de feu, de tout ce que vous voulez, où globalement on ne sait pas comment ces gens agissent, mais j'ai prié Dieu, ça marche pas, mais je vais aller voir un tel ou un tel parce que voilà. Donc je dis simplement de mettre la confiance en Dieu par rapport à tout ce qui est, ouais, peut-être l'idolâtrie ou autre chose, mais en tout cas c'est de bien penser à mettre Dieu au premier plan, de telle manière à, de par notre comportement, ne pas penser que Dieu passera après. Après effectivement, j'irai sur tout ce qui peut être soins, etc. Il y a des pratiques qui sont nécessaires. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est une illustration simplement pour dire, oui, mais l'idolâtrie, du temps d'Akab, etc., des cultes au bal, des sacrifices d'enfants, c'est fini. Je dis simplement qu'effectivement, de temps en temps, on peut être tenté de dire, j'obtiens pas ce que je veux, je veux, oui, comme moi, des annonces, riches en amour, riches en bonté, riches en guérison, etc. Sachant garder la tête haute de regarder à Dieu. Et comme note positive, parce qu'il y en a quand même comme note positive, chapitre 7, qui indique que Dieu n'a pas d'équivalent. Dieu prend plaisir à oublier nos fautes. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Donc le chapitre 7, les versets 7 à 20, mais je vais simplement retenir 7, 18, 19. C'est Michée qui parle, donc par rapport à toute cette période troublée. Moi, je me tourne vers le Seigneur. Je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Et il termine le chapitre 7 avec les versets 18 et suivants. À quel Dieu te comparer, Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonne la révolte du reste de ton peuple qui a survécu? Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous montrer ta bonté. De nouveau, tu nous manifesteras ton amour. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Alors, 7 siècles après ces paroles, c'est Jésus qui arrive sur terre, à Bethléem. Il se présente comme le bon berger. par rapport à l'arrivée de Jésus, ça fait 20 siècles qui sont écoulés. Nous sommes maintenant fils de la grâce de Jésus. Je paraphrase Michel dans notre conseil, humblement, mais que Jésus est intervenu dans les temps commandements. Ton Dieu, ta propre loi serait ces deux commandements. C'est super acte de ce qui est marqué, 736 du chapitre 2 de Matthieu. Aimera ton Dieu, aimera ton. Voilà, j'irai pour terminer. Parce que j'ai un petit peu de plonger dans ces fêtes de Jérémie et Michel. C'est des livres, donc ça me permet d'avoir un sujet quand je la lecture. Mais de constater paroles d'actualité, même si effectivement le prof parlait à des gens à l'époque, enfin c'est très très parlant. Oui. Le Dieu est pour Dieu, donne, mais il est aussi fils. La grâce de Dieu nécessite, mais avec juste, c'est effectivement pantin. De savoir qui est Dieu, connaître l'autorité, savoir qui nous sommes, avec nous faisons notre besoin de l'avoir, oui. En tête que ce soit les fils d'agneau, plus nous, qui faire tout ce qui est don, c'est juste une séquence de jugement rendu, et c'est en pas vert. On pense qu'il n'y a pas de don, on pense grâce aussi. Et dit tout, c'est francophone, et on risque d'avoir un petit peu. On répond, je suis là. Et que son entendre, écoute, non, t'entends, on a bien des passages où on dit que Dieu écoute plus, ne tient plus de ses questions. Même si le pardon Dieu écoute, on entend, il y a des. Dieu ne les règle de permanence, donne des glodes. En permanence, on vit prendre à sa race. Et devoir effectivement se donner vers pour la jette. Ou le sol. Donc, effectivement, question pique, évidemment, c'est. J'ai presque envie de dire qu'il avait déjà spoilé la fait prêche. Le pardon, il est remonté. Des dons nos pardons, la croix. Soyons libres de tous nos peines. Soyons peur de penser nos ordres. Quel âge des prophètes Smith. Ou on puisse encore baper ces nouvelles, l'ordre de nous. À des vous. Oui. Dieu est amour, oui, d'use. Et allez-je, dites-vous de monter tôt, ou pas. Les bras vous rentrent, ou pas. Et en plus, je voulais effectivement, c'est hier les versets du chef 5. Même Jean, soyez sous ceux qui sont plus que vous, et vous, mettez-vous humide en voie pas avec les autres, car tu en déclare. N'opposez aux eux, et les humbles avec bonté. Courbez-vous humblement aux mains puissantes d'eux, afin qu'ils vous aient moment fixé. Et chargez-vous, lui, tout vous, à elle prend soin. Voilà. Juste une minute. Transition avant de donner la parole à Jacques. Donc, d'inviter à savoir où en est votre ligne téléphonique. Et souscrire à Anna, parce que, disons, avec des fêtes, mais simplement en revenement, on en a un peu. Est-ce que tout va bien et de continuer à garder cet abonnement avec Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ces encouragements à marcher humblement avec toi, en toute simplicité. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ comme un bon berger, comme celui qui a pris nos fautes sur lui. Merci pour ta grâce, merci pour toutes ces invitations à te suivre, à se tourner vers toi. Et pardon, notre Dieu, pour tous ces moments qui ne sont pas à ta gloire. Merci encore de nous relever et de nous encourager à partager cette bonne nouvelle. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.